Cartier, bonjour.
Bonjour.
Alors, sur quel constat avez-vous décidé d'écrire Le Choc, la Chine en marche ?
Sur le fait que je ne comprenais rien à ce monde quand je suis arrivé à Singapour dans les années 80. J'ai eu pour assistant dans la profession que j'exerçais à l'époque mon premier chinois en quelque sorte, singapourien. Et à chaque fois que je lui donnais des instructions, il me disait oui, il me disait oui. Il avait une formation à Londres parfaite, il était très bien éduqué, avec des diplômes importants. Mais le résultat, c'est que deux jours plus tard, quand je demandais si le travail était fait, j'avais une autre histoire et en général, si j'étais parti à droite, lui était parti à gauche. Donc ça m'a pris un certain temps de me dire, je ne comprends rien à ces gens-là, il faudrait que je mette de l'ordre dans mes idées.
Alors comprendre la Chine, c'est aussi mieux nous comprendre, mais le propos est tout de même ambitieux.
Je pense que oui, c'est peut-être ambitieux et je n'ai pas l'ambition de comprendre la Chine, j'ai simplement l'ambition d'essayer de comprendre la différence entre ce monde-là et le monde dans lequel j'ai été éduqué. Je pense que c'est une leçon d'humilité et je crois que ce qui est intéressant, c'est de se remettre en place pour ne pas avoir l'arrogance qui s'exprime aujourd'hui dans le monde occidental.
Qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours personnel à vous intéresser à la Chine et à vous y installer ?
Le hasard. J'ai travaillé en Afrique noire et j'ai travaillé pour une société pétrolière qui m'a envoyé à Singapour quand Singapour était inconnu, c'est-à-dire que l'aéroport était une cahute en bois. Aujourd'hui, tous les gens qui sont allés à Singapour constatent que l'aéroport est magnifique. Et une fois que j'ai été en Asie pour être responsable d'une zone qui commençait de Bombay à Pékin et de Shanghai à l'Australie, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. J'étais parti pour 3 semaines, je suis resté 30 ans, j'y ai monté mes affaires, c'est purement le hasard.
Finalement, vous habitez aujourd'hui Hong Kong, mais pourquoi Hong Kong plutôt que Pékin ou Shanghai ?
Je me suis installé à Hong Kong en 1986 pour développer ma société dans le cadre d'un projet qui avait lieu dans la province de Canton. Et comme je viens de dire, j'étais parti grosso modo en pensant que 3 semaines à Hong Kong, ça irait bien. Je préférais Singapour. Finalement, je suis jamais sorti de Hong Kong et je suis allé souvent à Pékin. Mais mes affaires, en fait, Hong Kong étant une plaque tournante et je ne travaillais pas que sur la Chine, c'était beaucoup mieux.
Finalement, Hong Kong, c'est l'observatoire idéal de la Chine et de l'Asie.
Alors ça, c'est assez ambigu de penser qu'Hong Kong était un... Disons que c'est une plateforme idéal pour les moyens de communication, qui est assez central, parce que quand vous êtes là, vous n'êtes pas loin de tous les intervenants de la zone Asie. Mais quant à la mentalité hongkongaise par rapport à la mentalité chinoise, je dis tout de suite, attention, les Hongkongais sont des gens totalement différents, et si je puis dire, totalement pollués par la colonisation anglaise.
Alors en 1989, vous êtes à Pékin au moment des événements de Tiananmen. Quel souvenir en avez-vous ?
J'en ai un souvenir très précis, c'est un hasard, j'avais un projet de construction d'hôtel, il se trouvait que cet hôtel était celui dans lequel il y avait les journalistes français qui étaient venus, et les journalistes anglais, parce que c'était le seul hôtel moderne de l'époque, qui étaient venus pour accueillir ou rapporter sur Gorbatchev. Et mon client était en fait la ville de Pékin. Alors, mon souvenir, et j'en ai plusieurs, mais le premier plus amusant, c'est que les événements démarrent. C'était un brouhaha à 3 kilomètres de l'endroit où j'avais mon chantier, où j'avais 300 cantonais qui étaient en train de travailler. Je reprends l'avion pour passer le week-end à Hong Kong. L'avion était plein. Je repars après le week-end, le lundi ou le mardi, et là, le consul de France à Hong Kong me passe un message en me disant « Serge, vous pouvez pas aller à Pékin, la ville est à feu et à sang, c'est dangereux, etc. etc. » Et je monte quand même dans l'avion, puisque j'avais mes 300 cantonais, mais on était 3 dans l'avion. Ça, c'est mon premier souvenir. Mon deuxième souvenir, c'est qu'en fait, du fait que j'ai eu une réunion immédiatement avec les gens de la municipalité de Pékin, parce qu'il y avait plein de problèmes, même sur le chantier et sur ces événements. Et j'ai eu accès, ils m'ont immédiatement passé, parce que j'ai dit, écoutez, moi j'ai rien vu à la place, ils m'ont passé environ 2h30 de bandes vidéo sur ce qui s'était passé, qui sont des bandes vidéo qui n'ont pas été publiées par les médias européens. J'ai donc vu quelque chose de tout à fait différent de ce qui a été rapporté en Europe. Et mon troisième souvenir, c'est que je suis allé à l'université de Beida, d'où est parti le mouvement de Tiananmen. Et là, j'ai eu aussi un discours totalement différent de tout ce qui a été rapporté en Europe. Après ça, j'ai fait, j'avais déjà une petite feuille de presse que je relâchais à mes clients, j'ai fait une synthèse qui était évidemment très surprenante pour les gens qui avaient été, disons, médiatisés ou broyés par la machine médiatique occidentale.
Finalement, vous pourriez faire un livre aussi sur Tiananmen. Alors justement, pour rendre compte des bouleversements qui secouent la Chine depuis 30 ans, vous avez fondé une revue, Asian Affairs.
Oui, l'histoire de cette revue, c'est que j'ai une société de conseil et mes clients étaient des multinationales et des gouvernements qui me demandaient de faire des analyses géopolitiques pour des projets à long terme ou des gros investissements lourds. Mais à chaque fois que j'avais un nouvel intervenant, c'était la même question qui revenait. Alors la Chine, ceci, cela, etc. Et à un moment donné, je me suis totalement lassé en disant, écoutez, si vous lisez rien sur ces pays-là, il faudrait 4 jours pour vous expliquer, au minimum. Donc je préférerais vous donner un bout de papier. J'ai donc commencé à écrire certaines choses, et puis après je les ai argumentées par le fait que je suis allé interviewer à peu près tous les gouvernements d'Asie. En publiant Asian Affairs, qui était destiné au milieu diplomatique et au milieu, disons, des grands dirigeants, je gagnais du temps, puisque ces gens-là étaient censés retirer le suc de ce qu'ils lisaient.
Et vous avez même rencontré Jiang Zemin.
Oui, j'ai rencontré Jiang Zemin avant la visite de Chirac en Chine. C'est venu tout simplement parce qu'Asian Affairs commençait à avoir une bonne réputation, que mes analyses sur Tiananmen avaient été certainement scrutées en Chine et qu'elles étaient les seules correctes, puisque j'avais dit qu'il n'y aurait pas de fragmentation, que c'était pas grand-chose pour Deng Xiaoping quand on a une telle trajectoire, et que la Chine, en fait, avait traité cette affaire d'une façon assez remarquable, et ça avait relancé la machine économique. Donc j'ai été invité à questionner en privé Jiang Zemin. Aussi, l'un de mes avantages, c'est que je ne demandais jamais de photos, je ne demandais jamais que ce soit public. C'était simplement pour avoir des questions directes avec des dirigeants qui me permettaient de mieux comprendre les décisions gouvernementales.
Alors on revient à votre livre, Le Choc, où vous faites œuvre d'historien. Mais comment avez-vous travaillé pour écrire cet ouvrage extrêmement bien documenté ?
J'ai travaillé comme une fourmi. J'ai accumulé un nombre de livres au fur et à mesure des années, certains que j'ai trouvés aux puces à Pékin dans les années 80. Il y avait un grand marché aux puces aux livres qui n'existe plus, où on trouvait par terre tous les livres qui avaient été abandonnés dans les années 1920, 1930, écrits à cette époque et abandonnés au moment où les communistes avaient pris le pouvoir. J'ai donc accumulé beaucoup de livres, j'ai commencé à me mettre certains sujets dans ma tête, en me disant, tiens, tel sujet, ça m'intéresse, la querelle des légistes, c'est quoi, machin. Et à la fin, ça faisait un fil, une narration complète sur l'histoire chinoise et aussi sur la mentalité chinoise. Donc j'ai mis de l'ordre dans mes fiches et le choc est né de ça. Ça a pris 20 ans.
Ah oui, ça ne m'étonne pas. Alors vous commencez votre livre par une analyse de la grande règle, la Bible des Chinois, dites-vous. Mais qu'est-ce que cette grande règle ?
Alors par analogie, on pourrait dire que même si en Europe très peu de gens ont lu la Bible, je pense que une très faible minorité de gens connaissent la Bible, quand ils sortent de l'école, ils sont totalement imprégnés de préceptes qui viennent de ce genre de livres qui sont des recueils à la fois de légendes, de conseils, et en Europe, en Occident, qui sont mêlés aux religions européennes ou aux religions, disons, du bassin méditerranéen. En Chine, si on demande à un Chinois du coin de la rue s'il connaît la Grande Règle, très probablement il va dire qu'il la connaît pas. Par contre, il va vous dire immédiatement que, et vous allez vous apercevoir qu'il est relativement superstitieux, et il va vous dire des tas de choses qui se réfèrent directement à la Grande Règle sans qu'il le sache. C'est un petit peu le même problème qu'on a nous, par exemple, on parle du péché, on parle sans arrêt des choses bien, des choses mal, tout ça ce sont des concepts qui sont nés de la Bible. Eux, ils ont un grand nombre de concepts qui sont nés directement de cet ouvrage, qui était un ouvrage de base pour tous les lettrés chinois dans le passé, et qui l'est encore pour les dirigeants.
Mais dans la grande règle, il n'y a pas de concepts moraux.
Non, et c'est la grande différence, et c'est ça qui est intéressant en observant cette culture, c'est que en Occident, on a beaucoup, beaucoup de mal à imaginer qu'un univers pourrait être basé simplement sur une sorte de sémantique faisant confiance au jugement de l'homme sans qu'il y ait Dieu, le paradis, l'enfer tout ce qui est associé à ce genre de hiérarchie. Les Chinois ont, par une culture très longue et probablement sur 4000 ans, ont développé une vision du monde qui fait abstraction de ces concepts. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas, au sens propre, une morale, comme il ne peut pas y avoir... Est-ce que dans la nature, on peut dire que quelque chose est bon ou mauvais? Ça dépend du point de vue où on se place. La nature n'a pas de sentiment de bonté ou de mauvais ou de beauté. C'est simplement un fait.
Alors, si en Chine, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, alors comment on fait?
Alors, s'il n'y a pas le Dieu et il n'y a pas le diable, le problème que se pose tout le monde, c'est, et on revient à la nature humaine, imaginez que vous voulez vivre sans Dieu, sans diable, vous voulez certainement vivre paisiblement, avoir une famille, protéger vos enfants. Ce sont tous les vrais sentiments qui ressortent et qui font la structure de la société. Ces sentiments-là se heurtent si vous groupez plusieurs familles ensemble. Vous allez voir que vous voulez protéger vos enfants plus que d'autres, enfin, ou les autres veulent les protéger de façon à ce que ça gêne vos enfants. C'est toute cette articulation extrêmement complexe qui part de prémices différentes qui a finalement créé la société chinoise. Du coup, on a une société qui a très très peu de points de référence avec la nôtre. Nous, on vit dans la crainte et on imagine que si on n'avait pas la crainte, on ferait n'importe quoi. Et il faut qu'on se débarrasse de ce réflexe complètement. Et les Chinois nous donnent une leçon là-dessus.
En tout cas, ça n'a pas l'air d'être demain la veille en ce qui nous concerne. En tout cas, en Chine, les rapports entre l'homme et la nature sont quasi sacrés.
Oui, c'est une. Tout le monde connaît, enfin tout le monde. Beaucoup de gens sont au courant de ce qu'on appelle le feng shui, c'est-à-dire les éléments, le vent. Et quand on crée quelque chose de pas naturel, on dérange quelque chose d'autre qui est naturel. Prenons un exemple simple. Quand on avait des cours de rivière qui partaient dans tous les coins, la nature. Si on commence à bétonner la rivière n'importe comment, on va créer des inondations. On est bien placé maintenant pour savoir en Europe que beaucoup d'urbanisation a causé maintenant des inondations répétées un peu partout. Les Chinois ont appris ça au fur et à mesure, sans grande philosophie, à leur dépens. C'est-à-dire que confrontés à une nature hostile, mais avec une société très nombreuse, ils ont essayé d'organiser quelque chose qu'ils pouvaient maîtriser. Or, par définition, on ne peut pas vraiment maîtriser la nature. On a une vraie prétention, même le débat écologique d'aujourd'hui, d'imaginer que la planète s'arrête de tourner parce que les glaciers sont en train de fondre ou les icebergs sont en train de fondre, c'est absolument utopique. Le monde tourne et on est passé par plusieurs périodes. Il faut qu'on s'adapte. On ne maîtrise pas, on s'adapte. Les Chinois s'adaptent. Nous, on veut maîtriser.
C'est vrai que c'est une grande qualité, l'adaptation. Par les nombres, l'homme se met d'accord avec le ciel, nous dit la grande règle. Et les nombres sont toujours présents dans la Chine contemporaine.
Alors, non seulement ils sont présents dans la Chine contemporaine, mais on peut dire qu'ils sont présents en permanence dans notre civilisation ici. Si vous regardez les journaux, on ne parle que de chiffres. On pourrait dire en France qu'en ce moment, on est obsédé par 3%, c'est le déficit autorisé, etc. C'est un chiffre complètement artificiel. Sur les limitations de vitesse sur les routes, d'un seul coup, on nous dit c'est 70, 60, 80 ou 90, ce sont des chiffres magiques. En fait, on a toujours été dans les civilisations, on a toujours été, comment dire, absolument ébloui par le fait qu'avec des chiffres, on peut tout expliquer. Les Chinois ont d'abord eu une culture mathématique comme tout le monde. Ils n'ont pas eu le handicap des Romains avec le zéro. Il y a plein de, on connaît le boulier chinois. Mais surtout, le chiffre est nécessaire parce que, d'une part, dans une société très nombreuse, c'est important de pouvoir compter et savoir exactement ce qui se passe. Sinon, on oublie des gens, on oublie des récoltes, on a de la famine, etc. Ça demande une grosse comptabilité. Alors, qui dit comptabilité, dit chiffre. Et puis, les chiffres aussi ont un côté tout à fait magique. Après tout, pi 3,14, c'est il y a des livres ésotériques dessus, c'est un chiffre magique. Les Chinois ont vite compris que les chiffres avaient un côté magique dans la mesure où on pouvait démonter des phénomènes et les quantifier. Alors ils en sont restés avec certains chiffres magiques aussi.
Mais toute leur vie d'aujourd'hui est baignée dans la numérologie, même les numéros de téléphone.
Ça, c'est le côté superstitieux. Quand on n'a pas le paradis et l'enfer, on se réfère à, disons, à autre chose. C'est-à-dire que la superstition reste et on va essayer d'accommoder la nature. Si les chiffres ont montré que c'était assez favorable, ces chiffres-là deviennent plus sacrés que d'autres. Il y a aussi des jeux de mots sur le son, le langage, comme dans toutes les cultures et dans tout ce qu'on raconte. Mais c'est vrai que la numérologie reste un élément qui montre bien le fond. Et là, on revient à la grande règle. Le fond chinois est basé sur des grands principes qui sont définis autour des chiffres. Nous, c'est défini autour des évangiles. C'est pas la même chose.
Donc, effectivement, le résultat n'est pas le même. Et les Chinois, à la différence des Occidentaux, ne cherchent pas à expliquer le monde, donc, mais à le gérer, tout simplement.
Oui, je crois que c'est la grande leçon d'humilité, c'est que si on a la prétention de refaire le monde toutes les minutes, on provoque plus de catastrophes que de biens. Évidemment, à long terme, la critique que les Occidentaux font à un monde qui respecte tout, c'est qu'il n'évolue pas. Il évolue moins vite, et donc il amène moins de richesses, entre guillemets. Mais les richesses ne sont pas pour tout le monde. Quand vous avez à manipuler 300 millions de personnes au XVe siècle, c'est pas la même chose que l'Europe, c'est pas la même chose que Louis XIV qu'on avait avec 25 millions à manipuler. Et puis aussi, je trouve qu'il y a un grand cynisme en Occident sur le problème des dommages collatéraux. On vous parle dans les journaux, on vous abreuve de morts ici et là, comme si ces morts étaient complètement anonymes. Je crois que ce qui a tétanisé les Chinois, c'est quand ils ont eu leur grande guerre, le nombre de morts était astronomique. Dans une bataille, il y avait 500 000 personnes tuées. Et je crois que ça a profondément marqué le gouvernement, parce qu'après tout, tous ces gens-là n'avaient pas à mourir. Nous, maintenant, on fait des guerres par proxy. On a éliminé la mort de notre système. Et on devient d'un cynisme absolu. Les Chinois sont passés par cette phase, mais ils ont réalisé très vite que c'était contre-productif.
Est-ce que c'est le mot équilibre qui résume le mieux la manière qu'ont les Chinois d'appréhender le monde ?
Oui, tout à fait. Je pense que si on réfléchit en géopolitique, par exemple, c'est vraiment le mot équilibre qui revient. Et on connaît leur histoire, on connaît le nom du pays, etc. Mais on apprécie mal en Occident ce que veut dire équilibre. Équilibre, ça veut dire un élément stable où tout le monde a une chance finalement. C'est pas choisir que certains vont avoir une chance et pas d'autres. C'est pas non plus tout bouleverser pour d'un seul coup ce qu'on a fait dans les colonies, amener des gens rapidement dans la mouvance de l'Occident pour dire après, oh là là, on a fait beaucoup de dégâts, parce que ces gens-là sont morts. Et le mot équilibre est important. Même l'équilibre familial est important dans les familles. Aujourd'hui, on parle que de droits et pas d'obligations. C'est pas un équilibre. L'équilibre de la justice n'existe plus dans nos concepts.
Grave problème, tout ça. Alors, pas de mythe, dites-vous, dans la psyché chinoise, mais il y a pourtant bien une mythologie.
Oui, alors c'est ambigu. Bien sûr, il faut se référer ici à ma propre culture, à la culture occidentale. Nous, on vit avec des grands mythes qu'on refuse d'aborder. Le pays chinois actuel ne vit pas avec une vision de l'histoire identique. Il y a des grands mythes, il y a le fait que certaines personnes ont fait certaines choses à un certain moment, mais on n'arrive jamais à une légende comme on pourrait avoir l'Iliade et l'Odyssée, la Bible, etc. Nous, on peut citer une centaine d'ouvrages. Eux, ça reste, même Confucius, qui pourrait devenir un mythe absolu, ça reste plutôt une étude, comme nous, on étudierait Montesquieu. Je crois que peu de gens lisent Montesquieu aujourd'hui, et pourtant, on a à peu près tout dans Montesquieu de Confucius. Alors les Chinois vivent quand même avec leur propre petit mythe. C'est aussi un pays très très grand, donc faut penser qu'il y a une forte influence de contes locaux et de traditions locales qui se sont baignées. Et puis quand il y a 4000 ans d'histoire, il y a énormément d'histoire.
À propos de Confucius, vous faites référence à Sénèque qui n'a rien de commun avec Confucius, mais qui serait donc plus proche des taoïstes.
Oui, enfin je fais une citation là pour essayer d'expliquer le problème qu'avaient les jésuites quand ils sont arrivés en Chine. Imaginez que vous arrivez sur Mars et qu'il y ait des habitants sur Mars, mais vous n'arrivez pas à les décrire parce que il n'y a aucun point de comparaison. Ils ressemblent ni à des hommes, ni à des poissons, ni à des dinosaures. Ils sont habillés avec des choses qui n'existent pas sur la Terre. Et vous êtes en train d'écrire à quelqu'un qui est très très loin pour lui dire « Mais tu sais, j'ai rencontré quelqu'un qui est comme ci, comme ça, etc. » Si on commence à parler de la culture, bon, imaginons que tous les échanges d'informations se sont faits à l'époque en latin. Des Portugais qui écrivaient du latin, des Italiens qui écrivaient du latin, et ils décrivaient quoi ? Des Chinois dont ils parlaient difficilement la langue, et puis ils découvrent Confucius, le principe taoïste, etc. Et là, l'un des jésuites essaye d'utiliser des points de référence que tout le monde connaît dans la culture pontificale ou la culture du clergé à l'époque, c'est-à-dire la philosophie grecque. Et s'il veut expliquer la différence entre Confucius et Lao Tzu, il est obligé de dire, mais alors, c'est plutôt Sénèque que quelqu'un d'autre. Parce que il fait référence, en fait, à ce qu'on pense de Sénèque. Mais ça doit rester là, c'est simplement pour marquer une différence, entre les deux personnages. Sénèque est un cynique, et Lao Tzu est un cynique. Confucius n'est pas un cynique. Et c'est le seul moyen qu'il a pour expliquer. Mais c'est quand même pas comme en Grèce, mais c'est un cynique, mais chinois. Bon, alors, celui qui reçoit cette lettre, qu'est-ce qu'il en pense ? Ben, il se dit, il est, oui, un peu différent, mais il introduit aussi immédiatement une distorsion dans son analyse.
Donc, même chose pour Empédocle.
Même chose pour Empédocle, qui est simplement un point de référence sur les chiffres. On a une civilisation qui est basée justement, ben nous, à l'école, tout le monde se souvient, Pythagore, le théorème, etc. C'est absolu. Et là aussi, si on veut expliquer, mais vous savez, c'est quand même pas des gens complètement crétins comme les Indiens du Brésil et tout. Vous savez, ils ont quelqu'un comme Empédocle. Et là, ça change le débat. En fait, c'est introduire quelle est la civilisation. Ça se passe à la même époque ou au Mexique. On a les jésuites en train de convertir, on les a en Uruguay, on les a au Brésil, en Amérique du Sud, où là, ils rencontrent des civilisations tout à fait différentes de la chinoise. Mais ils n'ont jamais utilisé ces arguments pour décrire la civilisation d'Amérique du Sud. Ils les utilisent avec les Chinois parce qu'ils disent, mais il y a une grande structure philosophique, il y a quand même quelque chose, une grande structure culturelle, les lettrés, c'est les choses, c'est les gens qui sont au sommet de la hiérarchie sociale, et alors, ben alors c'est comme en Grèce, et on commence à sortir absolument tous les personnages grecs pour expliquer ce que c'est.
L'explication par comparaison. Alors vous n'hésitez pas à appeler à la rescousse le cerveau droit et le cerveau gauche, ainsi que les différences de langage pour expliquer l'incompréhension entre les Chinois et nous. Quelque chose d'assez étonnant.
Ça reste un débat très ouvert, mais qui m'a beaucoup intéressé. Il y a des montagnes de livres sur ce débat. Vous savez, quand on a une écriture pictographique comme les Chinois, la question est que un caractère peut représenter en fait plusieurs idées à la fois. Et ces idées sont assez longues. Donc nous, on ferait une dissertation de 3 lignes ou 4 lignes au lieu d'utiliser un mot. Je prends un exemple. Vous prenez, et c'est ce qui m'avait étonné quand j'ai rencontré les Chinois la première fois, vous prenez, imaginez que vous aviez un puzzle, comme un Scrabble avec des caractères chinois. Et vous avez de l'autre côté l'alphabet. Vous avez un Scrabble donc en alphabétique et un Scrabble où il y a des caractères chinois. Bon, quelqu'un fait tomber la table. Vous avez d'un côté un gros tas de lettres alphabétiques, et de l'autre côté, vous avez les caractères qui sont tombés les uns contre les autres dans le désordre le plus absolu. Eh bien, le chinois, dans le désordre le plus absolu, va vous dire en fait que ce qui est tombé a un sens. C'est-à-dire que la combinaison de ces caractères fonctionne. Tandis que nous, la combinaison de l'alphabet qui est tombé par terre ne fonctionne pas, on n'a aucun mot. Bon, ça pose déjà le problème de comment se structure le langage. Alors, je cite plusieurs auteurs qui s'y sont intéressés, on n'a toujours pas de preuves. Mais il y a un autre élément qui vient jouer, c'est qu'on a découvert quand même qu'on a un cerveau qui est mathématique, un côté du cerveau qui est mathématique, et un côté qui ne l'est pas. Et ça, c'est une preuve scientifique absolue, je veux dire, c'est pas une invention, c'est quelque chose qui a été déterminé par des expériences. Maintenant, On sait aussi que la visualisation dans le cerveau des pictogrammes se fait dans un côté où ne se fait pas l'alphabet, où ne se fait pas la grammaire. Et ça pose et ça laisse, c'est une question, je donne pas de réponse. Mais ça montre bien que forcément, si c'est structuré d'une façon différente dans le cerveau, ça sort différemment et ça s'exprime différent. C'est tout. C'est admirable, c'est fantastique. Ça veut dire que l'homme est multiple.
Et du coup, le cerveau gauche pour l'Occident et le cerveau droit pour la Chine, peut-être. Alors, impossible quand on parle de l'histoire de la rencontre entre l'Occident et la Chine de ne pas aborder le rôle des jésuites, on vient d'ailleurs de le faire, mais il est plus rare de parler de l'influence du jansénisme sur la querelle des rites.
Je vois que vous avez tout relevé. C'est une chose très intéressante parce que, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur les jésuites arrivant et comment ils se sont, comment ils ont réussi furtivement, en partant de Macao, à grimper dans la société par des moyens tout à fait jésuites jusqu'à Pékin. Ça, c'est intéressant. Mais après, ils se retrouvent avec une querelle théologique pas possible puisqu'ils accommodent les rites chinois, sinon en particulier le culte des ancêtres. Et puis, ils sont très accommodants sur l'histoire des mariages avec des mariages multiples, puisque le Chinois a une concubine, une première femme. Et ils ont une querelle avec, évidemment, à Rome, les Dominicains ou les autres confréries qui disent « Mais vous exagérez, c'est pas possible, c'est incompatible, vous êtes en train de faire n'importe quoi. » Et le débat, disons, commence à glisser vers un débat absolument pas chinois, mais complètement chrétien. On a eu vraiment pendant des siècles, on a inventé tout le système religieux. Les gens ont oublié que le célibat des prêtres n'est arrivé qu'au XIe siècle, que beaucoup de choses sont une invention purement du cerveau humain. Et évidemment, on arrive aux mêmes questions fondamentales, la question jansénienne, c'est-à-dire est-ce qu'on est la prédestination finalement, le choix. On revient à un problème de société ici. Les équilibres, c'est pour essayer d'englober tout le monde. Quand on part au départ sur une société qui a beaucoup d'enfants, si c'est à l'équilibre, tout le monde a la même chance. Si on admet que les sociétés sont très injustes, bon, il y en a qui ont une chance et d'autres pas. Cette querelle s'est retrouvée dans la religion, avec certains religieux qui disaient « Mais est-ce qu'on peut sauver des gens qu'on n'a jamais rencontrés ? Est-ce que le péché originel s'applique aux Chinois parce que finalement ils n'ont jamais eu la chance de nous rencontrer. C'est aussi assez arrogant parce que à partir du moment où ils nous ont rencontrés, c'est une autre question. Mais avant de nous rencontrer, et là on retrouve tous les débats qu'il y a eu au moment de la querelle des jansénistes. Et aussi on va retrouver Louis XIV dans l'histoire chinoise, c'est drôle.
Et d'ailleurs à un moment vous posez une question un peu provocante, Confucius était-il chrétien ?
Oui, c'est une boutade parce que Confucius, si vous analysez tout ce qu'on a dit de Confucius, puisque lui aussi, comme beaucoup de philosophes grecs, n'a pas laissé un ouvrage de référence, disons que c'est une école, l'école de Confucius, on s'aperçoit que tous les préceptes qu'il utilise sont les mêmes préceptes qu'on retrouve à la base de la religion chrétienne. Évidemment, ils sont après modifiés par la religion chrétienne et le problème de la hiérarchie qu'on a créée dans la religion chrétienne, qui n'existe pas du côté de Confucius. Mais à la base, on peut strictement rien reprocher à Confucius de dire mais ce qu'il dit, c'est pas chrétien, ça ne respecte pas les 10 commandements. Tout ce qu'il dit respecte les 10 commandements.
Et d'ailleurs, Pascal se demande dans ses pensées qui des deux est le plus crédible, Moïse ou la Chine.
Ben, on en vient au pari de Pascal, dont on sait maintenant mathématiquement qu'il était faux. Parce que on a beaucoup admiré sa façon d'essayer de se convaincre et d'avoir la foi par peur, ce qui ne viendrait pas à un philosophe chinois. Donc il pose la même question quand on parle de Confucius. Si Confucius respecte les 10 commandements, eh bien si respectant les 10 commandements Confucius existe vraiment, à la limite, qui est Moïse dans le fond, on remonte. Pascal saute à ce moment-là plusieurs centaines d'années pour se poser la question de dire mais finalement ça démarre où et qui est quoi. Et c'est une querelle que les jésuites lancent à un moment donné, mais ils vont s'en mordre les doigts parce qu'il n'y a pas de solution.
Non, ça, effectivement il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'on peut dire que Matteo Ricci invente Confucius en Occident mais qu'il invente aussi l'Occident en Chine? C'est ce que vous suggérez.
Oui, tout à fait. Je pense que son interprétation de Confucius, c'est la sienne, même s'il est très proche. C'est vraiment un intellectuel très intéressant, Matteo Ricci. Tout l'intéresse. Donc, il n'arrête pas d'apprendre, et plus il apprend, et plus il regarde, et plus il est perdu. Mais il a un grave problème, c'est qu'étant perdu, il veut pas perdre sa foi. Et il va arriver à des incohérences pour essayer de combiner de l'huile et de l'eau. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il est très honnête intellectuellement. Il aurait été en Europe, ou il serait revenu en Europe, il aurait probablement été excommunié et brûlé, parce que il arrive à des idées qui sont tout à fait iconoclastes. Alors, Matteo Ricci, est-ce que il est chinois, et qu'est-ce qu'il fait? C'est difficile à dire. Maintenant, l'autre aspect qu'il y a, c'est que les Chinois, à l'époque, n'ont que quelques personnages pour imaginer l'Occident. Donc, là aussi, ils débarquent, on fait l'inverse, ils débarquent sur une planète et ils rencontrent Matteo Ricci. Et ils vont décrire à leurs amis, vous savez, on a rencontré sur une planète des gens qui sont comme ci, comme ça. Et ils décrivent Matteo Ricci. Maintenant, Matteo Ricci n'est pas du tout à l'image de l'Occident. Et surtout pas à l'image du pape. Donc à un moment donné, l'image projetée par Matteo Ricci en Chine est celle d'un continent qui est extraordinaire avec des gens très intéressants. Bon, ils sont un petit peu fadas parce qu'ils ont une manie avec un dieu quelconque, mais en Chine, il y a eu tellement de sectes avant Matteo Ricci et après d'ailleurs, que ça c'est simplement un débat intellectuel, ça gêne rien. Par contre, ce qu'ils admirent, c'est son intégrité, son agilité, son intelligence, sa mémoire proverbiale, et ils se disent, mais alors les Occidentaux, c'est extraordinaire. Et puis ils vont découvrir plus tard que, ben non, Matteo Ricci, c'est simplement un homme assez exceptionnel, mais c'est pas l'Occident.
Effectivement, ils vont être assez déçus, j'imagine, surtout au XIXe siècle. Alors c'est un livre peu connu du grand public, La Chine illustrée du père Athanase Kircher, qui en 1667 lance la mode de la Chine, promise au XVIIIe siècle à un grand avenir.
Mais regardez comme le cerveau humain fonctionne. On est aujourd'hui exactement dans le même moule. C'est l'époque où Louis XIV est en train de construire Versailles, où les précieuses ridicules, Molière, tout le monde. Il y a un grand débat intellectuel, il y a plein de choses qui se disent. Et puis, d'un seul coup, on découvre un livre qui finalement donne une image de gens extrêmement sophistiqués, intelligents, puis surtout un empereur très riche qui est l'équivalent de Louis XIV. Et ça va lancer aussi la mode des chinoiseries. Tout le monde en veut. Il y a les paravents, il y a les porcelaines, il y a tous les objets d'art que les nobles européens achètent. C'est un effet de mode. C'est un peu, ils avaient déjà tout acheté avant en Italie, etc. Et d'un seul coup, il y a un nouveau produit. Alors tout le monde en veut. Et il y a un effet de mode extraordinaire. Et en plus, les philosophes, d'un seul coup, découvrent autre chose que les Grecs. Ils en ont marre de radoter sur les Grecs, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et d'un seul coup, ils découvrent, mais il y a autre chose, il y a d'autres gens. Alors eux aussi vont interpréter, tout le monde va s'en mêler. Ça va être une grande mode. Et en même temps, c'est déjà l'esprit occidentaux. Ah mais s'ils sont si riches que ça, on va s'enrichir. C'est immédiatement le réflexe, on va pas les enrichir, on va s'enrichir. Il y a enfin un monde riche quelque part.
Et d'ailleurs, ce monde riche, on l'a cherché depuis Jacques Cartier, cette Chine de l'or. Alors, pour quelles raisons, finalement, ne sommes-nous pas objectifs vis-à-vis de la Chine? Est-ce que ça, à partir de quand, c'est à partir de Matteo Ricci qu'on pourrait dater ce manque d'objectivité, ou plus tard?
C'est dès Matteo Ricci, en fait. Ça n'est pas Matteo Ricci, mais regardez la situation de Matteo Ricci qui décrit la Chine à sa hiérarchie à Rome, qui elle-même est une hiérarchie qui a le pape. En plus, les papes, à cette époque-là, ne gouvernent pas très longtemps, ils sont remplacés sans arrêt, et c'est un jeu politique extrêmement compliqué avec des Espagnols, des Italiens, les Français qui servent d'arbitre. Et dès qu'on découvre que la Chine a un potentiel, alors pour Rome c'est un potentiel d'âme, un potentiel de richesse pour essayer de rattraper tout ce que les gouvernements européens lui ont enlevé au fur et à mesure à cause de la réforme, la réforme c'est le mot anglais, à cause du protestantisme. C'est vraiment une course à l'échalote, c'est la course de l'or. Les Incas ont été pillés, le Mexique est plié, le Brésil est dans les mains d'autres, et alors il reste quoi? C'est un peu ça. Donc dès la première rencontre, la rencontre n'est pas simplement pour découvrir quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est notre problème occidental. C'est tout de suite un acte de prédation, d'une façon ou d'une autre. Donc dès le départ, le rapport est faussé.
Pourquoi peut-on dire avec certitude que les Chinois ne se sont jamais intéressés au reste du monde ?
Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est la fausse information d'avoir dit, dès le XVIIIe siècle, ils s'intéressent à rien parce qu'ils n'ont pas une belle marine, parce qu'ils n'ont pas Vasco de Gama, ils n'ont pas découvert, ils n'ont pas Christophe Colomb, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Donc, c'est nos points de référence. Donc, on commence à dire, ben oui, alors c'est des gens arriérés parce que nous, on a des gens qui ont été voir, eux, ils ont personne. Depuis, on a découvert récemment, en fait, au XXe siècle, que les premières grandes explorations à une échelle complètement inconnue de l'Europe ont été faites sous un empereur chinois au XIVe siècle. Alors, ce grand amiral Zheng He qui est parti, il n'est pas parti sur les deux barcasses de Christophe Colomb, parce que quand vous allez voir les bateaux de Christophe Colomb, vous pouvez les visiter à Cadiz, vous vous demandez comment ils ont traversé, et surtout, vous ne voulez pas être dessus pour rester 3 mois. Les Chinois sont pas partis avec 150 personnes ramassées dans des bouges, ils sont partis avec 12 000 personnes. Ça, c'est une expédition. Donc, ils en ont fait 7 très grandes. Et puis là, une expédition, si on pense au roi d'Espagne, ou plutôt à Christophe Colomb, à la quête d'aller chercher, il va chez le roi du Portugal, il dit, je vais aller là, non, vous aurez pas d'argent, je vais aller là, non, vous aurez pas d'argent. Finalement, il convainc quelqu'un en disant, oui, mais je vais vous ramener plein d'or et tout. Donc on lui donne 3 francs, il y va. Bon, l'empereur, il fait la même chose, il envoie son amiral, ça coûte très cher, il envoie tout ça en disant, bon, qu'est-ce que vous pouvez ramener ? Au bout de 7 expéditions, on fait la comptabilité et y a rien. Il n'y a rien de rien à ramener. Parce que l'empereur n'est pas en train de chercher des âmes. Ce qui change la colonisation occidentale, c'est que on a toujours des religieux dedans, et dès qu'on voit quelqu'un qui n'est pas chrétien, il faut absolument le capter. C'est le chiffre d'affaires de l'Église. Donc là, cette ambiguïté est clairement exposée entre faire une expédition dans un but purement commercial ou faire une expédition dans un but entre guillemets culturel. Les Chinois avaient pas d'ambition culturelle d'aller exporter leur culture ou de convertir quelqu'un. Quand ils sont revenus, la comptabilité est faite, l'empereur a dit, mais ça coûte un argent fou, mais qu'est-ce que vous ramenez? De l'or, j'en ai. Alors, quoi d'autre? Oh ben, on a trouvé un marché où ils pouvaient acheter des potes, des potiches ou quelque chose, mais ils ont de l'argent pour payer. Non, bon, alors on laisse tomber. Il n'y a plus d'expédition, tout simplement parce qu'ils étaient déjà très nombreux et que le pays, en réalité, est un pays de cocagne. Il y a tout. Si l'empereur s'en mêle, il y a tout. Donc, il y a des minerais partout, il y a des pierres, l'agriculture est riche. Qu'est-ce qu'on va chercher d'autre? Et la conclusion était, non, on va pas chercher. Et cette mentalité est restée ancrée dans le pays tout simplement parce qu'on prend soin des gens à proximité. Comme on n'a pas du tout l'ambition de les coloniser réellement, c'est-à-dire d'en faire des sujets qui vont aller à l'église tous les dimanches, il n'y a pas de motivation. Il n'y a aucune motivation et économiquement, ça n'a pas de sens. On en a la preuve au XIXe siècle quand les Anglais vont au Népal essayer de déstabiliser le Népal pour rentrer par la porte de derrière en Chine. Ben, le roi du Népal, qui évidemment se retrouve avec les Anglais, il n'a pas d'armée, appelle au secours l'armée chinoise, l'empereur, en disant « ça va pas du tout, faut m'aider ». Bon, ben l'empereur lui dit « je vais t'aider parce qu'il veut pas que les Anglais rentrent au Népal ». Il vire les Anglais, puis il envoie la facture et il retire ses troupes. Nous, on n'a jamais envoyé de facture, on reste sur place. Et c'est un exemple très symbolique, mais qui montre comment fonctionne le système. Le résultat, c'est qu'on a pensé que la Chine s'intéressait à personne.
Et c'est d'ailleurs parce que la Chine a tout que les guerres de l'opium démarreront. Alors vous faites un parallèle audacieux entre Lord McCartney et Goldman Sachs.
Oui, enfin, Lord McCartney, ben, ils sont aussi désastreux l'un que l'autre. Écoutez, Lord McCartney, le pauvre homme, on l'envoie en Chine, il n'a pas d'interprète, il a été gouverneur en Inde, mais ça veut dire qu'il restait dans son palais anglais, entouré d'anglais et de l'or anglais. La hiérarchie sociale anglaise est extrêmement rigide, on le constate même aujourd'hui. On envoie ce pauvre homme au casse-pipe avec des instructions qu'il ne peut même pas comprendre. Il refuse le protocole de l'empereur, il considère que l'Angleterre est aussi puissante que la Chine parce que elle est souveraine sur les mers, et il raconte plein de sottises et il y a un malentendu complet du début à la fin. En plus, c'est quelqu'un qui n'aime pas voyager, qui est pas curieux, parce que tout ce qu'on sait de lui, c'est son secrétaire qui l'a rapporté. Donc, en fait, lui, il a rien laissé comme écrit, c'est un monsieur qui est engoncé dans sa caste sociale et qu'on transplante là-bas. Goldman Sachs, on pourrait dire la même chose à propos des crises économiques. Quand ils arrivent quelque part, ils arrivent tout simplement avec un livre ouvert qui est le leur, où ils ont écrit toutes les recettes, et quelles que soient les circonstances, ils vont venir en disant « mais c'est comme ça qu'il faut faire, parce que nous, on est plus intelligents, on a plein de prix Nobel, et on a fait ça, on a gagné beaucoup d'argent ». Mais le principe de Goldman Sachs, c'est qu'ils gagnent de l'argent, ça veut dire qu'ils en prennent ailleurs. Gagner de l'argent, ça veut dire prendre de l'argent quelque part. C'est pas la même chose. Et donc, il y a cette attitude de l'arrogance intellectuelle complète, et le fait que on a vu dans la crise asiatique en 97 et plus tard jusqu'à la crise de 2008 qu'ils ont été mêlés absolument partout. Même en Grèce aujourd'hui, tout le monde et la presse le rapporte pas. La Grèce est rentrée en Europe subrepticement sur des choses fausses inventées par Goldman Sachs. Il n'y a pas eu de sanctions.
Donc l'arrogance est une chose bien dangereuse. Un épisode inconnu de l'histoire chinoise que vous citez dans votre livre est la rébellion du lotus blanc à la fin du XVIIIe siècle. Ça, je n'avais jamais entendu parler.
Alors il y a toujours eu des jacqueries en Chine, étant donné que le pays est grand et qu'il est essentiellement agricole et qu'il y a beaucoup de sectes. L'État fait très attention aux gens qui commencent à monter des groupes et qui sont des illuminés en disant ils sont, on verra plus tard les Taiping, le frère de Jésus, mais il y a plein d'illuminés dans toutes les histoires de tous les pays. On a eu des jacqueries en France, il y en a eu en Allemagne, il y en a eu absolument en Italie, il y en a eu absolument partout. Alors le pays a jamais été réellement 100% paisible vu sa taille et ses frontières et la quantité de population. Donc il y a toujours eu des jacqueries dans des coins qui sont dues généralement à des exactions des gouvernants ou au fait que le pays d'un seul coup se retrouve avec une catastrophe naturelle et il est mal placé. Prenons le Yunnan par exemple, où il y a la frontière, pour situer aux gens, c'est la frontière qui est près de la Birmanie ou près de la Thaïlande ou près du Laos aujourd'hui. C'est un pays, disons que c'est une province qui est enclavée et qui n'a pas directement accès à la mer et qui a un relief difficile. Aujourd'hui, énormément de diamants, etc. Vous imaginez, c'est un pays minier avec des populations assez rudes, pas très éduquées. Et dès qu'il y a une exaction, il y a le démarrage d'une petite jacquerie. Il faut pas grand-chose pour que cette jacquerie, d'un seul coup, regroupe 1 million de personnes. Et le lotus blanc a aussi, c'est le problème des successions impériales, le fait qu'il y a toujours eu, dans les successions impériales, le fait qu'il y a toujours eu des gens qui ont disputé la succession. Comme c'est pas la primogéniture, que les dynasties se sont succédées simplement par la mort physique d'une famille qu'on exécutait, il y a toujours les légendes, ben Louis XVII, mais il n'est pas mort, il est dans la montagne, etc. C'est comme ça que naissaient ces groupes. Et le lotus blanc a perduré très longtemps basé sur le fait qu'ils étaient anti-Ming, anti-Manchu. Parce qu'il y avait quelqu'un de vivant encore quelque part, mais en fait, non.
En fait, tout ça, ça fait 16 millions de morts tout de même, ce qui n'est pas rien. Alors, vous terminez le premier tome de votre trilogie en évoquant la guerre des pirates et les différends entre le Vietnam et la Chine, qui donc ne datent pas d'aujourd'hui.
Oui, vous faites allusion à ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas c'est d'actualité, et on oublie que le Vietnam et la Chine ont une relation très ambiguë. En fait, le Vietnam a toujours été un pays scindé en deux. Le Vietnam qu'on voit aujourd'hui, c'est un pays qui n'existait pas. Le Vietnam Nord, le Vietnam Sud étaient au départ des pays qui avaient un empereur, mais deux. L'empereur, entre guillemets, qui semble un mot magique, ils avaient un chef à un moment donné au 18e, mais à l'origine, c'est un pays qui était toujours avec le Nord et le Sud. Et ça a toujours été un pays de pirates. Au 17e siècle, le problème de la flotte de Canton, c'était d'essayer d'éliminer la piraterie venant du Vietnam. On n'a qu'à penser à ce qui s'est passé avec nous, avec Barberousse et Alger. Pourquoi la France est allée en Algérie? Tout simplement parce que la côte algérienne avait accueilli, et jusqu'à Tunis, tous les pirates, entre guillemets, les corsaires, que l'Empire ottoman autorisait pour épuiser l'économie. Nous aussi, on a eu nos corsaires. Hein. Donc c'est une tactique qui était utilisée. Le Vietnam a toujours été un pays, entre guillemets, de corsaires en ce qui concerne la Chine. Donc, au XVIIIe siècle, il y a eu une famille, il y avait trois familles, une qui a pris le dessus, et comme toujours, pour favoriser l'économie, la Chine a dit « c'est pas possible d'avoir une frontière aussi instable, tout le monde est pillé, le commerce marche pas, et il n'y a plus rien qui fonctionne ». Bon, imaginons la Libye d'aujourd'hui, tiens, par exemple. Donc, ils envoient à ce moment-là, à la demande de l'un des deux, là aussi, des troupes pour essayer de mettre de l'ordre. Et ils mettent de l'ordre au Vietnam. Si vous descendez jusqu'à Hanoï et que vous regardez bien la culture chinoise, comment c'est écrit au Vietnam Nord, et je sais que des Vietnamiens vont râler quand je vais le dire, mais en fait, leur langue d'origine, quand on le voit, c'est du chinois modifié. C'est du pidgin chinois remodifié. Donc, il y a toujours eu une mouvance de population. Donc, l'animosité, c'est que ce pays a toujours été avec des problèmes d'escarmouches qui n'intéressent pas trop la Chine. Et à chaque fois que la Chine est revenue, c'était pour mettre de l'ordre. Elle est revenue, souvenez-vous, il y a eu une guerre vietnamienne chinoise il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une trentaine d'années. Tout simplement parce que la frontière est instable, que le Yunnan, les gens passaient à droite et à gauche sans respecter le gouvernement chinois parce qu'ils pouvaient s'évader du côté vietnamien et sans respecter le gouvernement vietnamien parce que celui-ci n'avait pas les moyens de contrôler sa population. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir ce genre d'animosité dans la presse et de voir qu'il y a eu des émeutes anti-chinoises, c'est très facile de revenir sur des faits historiques pour ameuter une population qui se sent frustrée. Moi, je crois que c'est plutôt le signe de ce qui vient de se passer, le signe d'une frustration à l'intérieur de la société vietnamienne. Les Chinois, leur économie fonctionne, ils créent des emplois, ça va très vite, ils sont en train de... Vraiment, c'est l'économie numéro un mondiale maintenant. C'est organisé. Le Vietnam, ça, par rapport à la guerre avec les États-Unis, ça a pas mal démarré. Disons que ça a été extrêmement difficile. Mais c'est encore un pays qui est extrêmement pauvre. Et avec une structure rigide, ossifiée, gouvernementale, qui vit dans la crainte, tout simplement parce qu'il a un problème nord-sud. Rien à voir avec la Chine. C'est un pays qui a beaucoup de mal à se constituer et qui va avoir besoin de beaucoup de temps. Et qui, en plus, dans les montagnes, on l'oublie, a été extrêmement abîmé par les Américains. J'étais récemment au Laos, le long de la frontière vietnamienne. Il y a encore 80 millions de bombes qui explosent, de bombinettes dans la terre. Il y a 100 morts par an. 30% des terres agricoles inaccessibles, parce que si vous y allez, vous allez sauter. Et il y en a autant le long de la frontière vietnamienne. Ça date d'il y a 30 ans. C'est là. C'est très difficile de faire fonctionner une économie quand vous pouvez pas traverser le trottoir parce que vous allez sauter. Or, personne n'enlève ses bombinettes. Il y a un budget misérable des Nations Unies pour en enlever l'équivalent de 3 terrains de football par an. Là, il va falloir 70 ans pour enlever tout ça.
On voit pas bien trop l'issue, du coup. Alors, en voulant faire changer le chinois d'orbite pour des raisons purement mercantiles, l'Occident ne fit que détruire les équilibres prescrits par la grande règle, dites-vous. Mais l'Occident aussi ne respecte plus l'équilibre ancestral entre l'homme et la planète, et il n'y a peut-être pas de gagnant dans ce match, finalement.
Je crois qu'il n'y aura jamais de gagnant si on continue à avoir des systèmes qui ne vivent que par agression. On parle du capitalisme, le capitalisme est un système prédateur, qui est bien, jusqu'à une certaine limite, et le rôle de l'État, c'est de limiter justement ce côté prédateur pour en prendre la richesse. On parle de politique internationale, vous regardez les débats de politique internationale, c'est toujours comme si on avait un ennemi. On est vraiment dans une situation où les guerres ne se sont jamais arrêtées. Et on se demande pourquoi. On se demande quel est l'élément déclencheur. Alors maintenant, en Occident, on a un nouveau problème, on revient aux guerres de religion, l'islam fondamentaliste, etc. C'est vraiment quelque chose d'endogène à l'Occident. Les Chinois comprennent rien à ce débat. En fait, ils le regardent amusés en disant « mais on comprend pas pourquoi vous faites ça. On comprend pas pourquoi depuis 5 siècles ou 10 siècles, vous n'avez pas réglé ce problème. » Et puis eux, par contre, dans leur pays, on a essayé de les piller littéralement jusqu'à l'arrivée de Mao et de la République, et on a encore essayé derrière, mais maintenant, on peut plus le faire. Et ils sont un élément stabilisateur à cause de leur poids. Essayer d'avoir des conflits en permanence pour, disons, s'enrichir, ça veut dire, si on veut s'enrichir, on va appauvrir quelqu'un. L'idée qu'on enrichit tout le monde... ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui est enrichi d'abord avant que quelqu'un d'autre. Puis à ce moment-là, on dit « Ah bah oui, on va renvoyer un peu de cette richesse à quelqu'un ». Mais ces déséquilibres sont absolument inhérents au système qu'on utilise économiquement. Donc les déséquilibres vont continuer, les frictions aussi. Et la seule chose qui nous sauve du désastre, c'est la peur. C'est le fait que si l'ennemi est surarmé, on va pas y aller. on va pas y aller parce qu'on n'a pas envie de mourir et on n'a pas envie de perdre. Donc tant qu'on a la notion que l'ennemi peut gagner, on n'y va pas. Quand on a la notion que l'ennemi va perdre à tous les coups, on y va. C'est exactement ce qui s'est passé en Chine en 1840.
Et c'est ce qui s'appelle la force de dissuasion. Serge Berthier, merci.